Elle s'est couchée tôt et elle va faire le journal. Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les détails du couvre-feu seront précisés dans la journée par le gouvernement, mais l'on sait déjà qu'à compter de samedi minuit, il faudra éviter donc de circuler entre 21h et 6h du matin en Île-de-France et dans 8 métropoles. Emmanuel Macron a expliqué hier soir que cette mesure pourrait durer de 4 à 6 semaines. On sacrifie les quelques heures de liberté dont disposent les Français après le travail, dénonce la France insoumise.
La droite, elle, affirme que l'on paye aujourd'hui l'impréparation de l'exécutif sur les tests et les messages contradictoires du gouvernement, analyse dans un instant.
Et comment se passe le couvre-feu chez nos voisins? Est-il respecté? Est-il efficace pour lutter contre le Covid-19? Pour le savoir, nous irons en Belgique dans ce journal.
Et puis, focus également sur les précaires les plus touchés par la crise, reconnaît Emmanuel Macron, mais les aides qu'il promet sont encore insuffisantes selon les associations.
À la une encore, les 27 déterminés à afficher leur fermeté aujourd'hui à Bruxelles lors d'un sommet sur la relation post-Brexit avec Londres. Boris Johnson laisse planer la menace d'un arrêt des négociations et donc d'un no deal.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, on va évoquer le Sacré-Cœur parisien. Il est inscrit au monument historique, mais pourquoi si tard? Eh bien, on posera la question à Alexandre Gady, il est professeur d'histoire de l'architecture à la Sorbonne.
Métro, boulot, dodo et plus de resto, enfin, après 21h.
La décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Le gouvernement est en mesure de le décider pour 4 semaines. Nous irons devant le Parlement pour essayer de le prolonger jusqu'au 1er décembre. Si pendant 6 semaines, nous tenons ce couvre-feu, on est collectivement responsable justement de réduction de ces contacts, à ce moment-là, nous pensons que nous pourrons progressivement réouvrir.
Emmanuel Macron a donc annoncé hier soir l'instauration d'un couvre-feu entre 21h et 6h du matin à partir de samedi en Ile-de-France et dans 8 autres métropoles. Aix-Marseille, Lille, Toulouse, Grenoble, Lyon, Montpellier, Rouen et Saint-Étienne sont également concernés par cette mesure que le chef de l'État espère étendre à 6 semaines pour endiguer la deuxième vague de Covid-19. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Le chef de l'État explique que son objectif est de garder ouvertes en journée les entreprises et les écoles ainsi que les universités et en même temps de procéder à une sorte de confinement la nuit.
Oui, l'objectif c'est de pouvoir continuer à avoir une vie économique, à pouvoir travailler, à ce que les écoles, les lycées, les universités fonctionnent, à avoir une vie sociale, mais en réduire les aspérités, selon les mots d'Emmanuel Macron. Par le thème d'aspérité, le chef de l'État fait référence au moment de relâchement, en particulier lors de soirées privées, dans l'application des gestes barrières. En cas de non-respect du couvre-feu, le montant de l'amende sera le même que pour le non-respect du port du masque, c'est-à-dire 135 €, et même, en cas de récidive, 1 500 €, a précisé le chef de l'État. L'objectif numéro un étant, comme au printemps dernier, de ralentir la progression du virus pour ne pas saturer les hôpitaux et surtout les lits de réanimation.
Une stratégie déjà critiquée par l'opposition, Sophie.
Oui, à droite, Éric Ciotti fustige ce qui relève, selon lui, d'un défaut d'anticipation du gouvernement.
On paye par cette décision qui malheureusement s'impose les inconséquences de plusieurs semaines. C'est parce que notre pays n'a pas su tester, tracer, isoler avec efficacité. Je regrette que notamment sur les capacités de lits hospitaliers, de lits de réanimation, eh bien cette deuxième vague n'ait pas été anticipée à la mesure de l'ampleur du défi qui est posé à notre pays.
Pour le député La France Insoumise, Adrien Quatennens, cette mesure du couvre-feu réduit les libertés individuelles, mais sans une efficacité réelle sur la limitation de la propagation du virus.
On a plusieurs articles de presse qui confirment que, par exemple, un tiers des foyers de contamination sont à l'université, à l'école, que l'entreprise, quand il n'y a pas toujours les moyens de se protéger, peut être un lieu de contamination, etc. Et personne ne peut croire que le virus va cesser de circuler une fois le couvre-feu levé au petit matin à 6h, quand tout le monde va pouvoir s'entasser dans les transports en commun.
Des propos cueillis par Élodie Fauré. Emmanuel Macron a envoyé un message aux élus et aux maires hier soir, incité à proposer des plans de prévention dans la France entière, afin de constituer aussi des relais auprès des citoyens pour mieux faire accepter les mesures de restriction. Car le chef de l'État l'a dit hier soir, nous en avons jusqu'à l'été 2021 avec ce virus.
Sophie Delpont, merci pour cette analyse. Et avec le couvre-feu, c'est donc le retour des attestations pour se déplacer pour 20 millions de personnes dès samedi. Les détails sont attendus dans la journée pour les dérogations accordées notamment pour motifs professionnels ou sanitaires. Emmanuel Macron s'est également prononcé sur le télétravail hier soir. Ce n'est pas la panacée, a-t-il déclaré, refusant donc d'en faire une règle nationale pour ne pas réisoler les salariés. Le président a par ailleurs annoncé une réactivation de la prise en charge à 100% du chômage partiel pour l'hôtellerie, les cafés, les restaurants, le secteur du tourisme, l'événementiel, la culture et le sport. On va mettre la clé sous la porte, se désespèrent déjà certains professionnels. Focus dans le journal de 7h30 sur le spectacle vivant. Emmanuel Macron, qui était aussi attendu sur le terrain social. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
La crise touche encore plus les plus modestes, a souligné le président, d'où sa réponse pour les plus précaires, Catherine.
Et cette réponse, c'est une aide ponctuelle de 150 euros, auxquels s'ajouteront 100 euros par enfant. Elle sera versée pendant les 6 semaines qui viennent aux bénéficiaires du RSA et à ceux qui perçoivent des aides personnalisées au logement, les APL. Et cela afin de toucher les plus jeunes, a insisté le président de la République. Une aide semblable avait été versée au printemps. Mais on est loin de ce qu'attendaient les associations d'aide aux plus précaires, toutes plaident depuis des semaines pour une ouverture du RSA aux moins de 25 ans, alertant sur la situation des jeunes sans emploi ni filet de sécurité, et pour une revalorisation des minima sociaux face aux grandes difficultés sociales qui s'installent durablement dans le pays. Dès hier, elles ont exprimé leur déception alors qu'elles espéraient un changement de politique pour faire face à la crise. Emmanuel Macron lui garde son cap. « Je préfère cette aide exceptionnelle massive plutôt qu'une augmentation des minima sociaux », a-t-il expliqué, « et qu'on ne perde pas nos fondamentaux, la lutte contre la pauvreté par l'activité et le travail ». Depuis le début de son quinquennat, le président de la République s'est toujours fermement opposé à l'ouverture ou la revalorisation de droits envers les plus précaires, préférant des dispositifs ciblés et circonscrits dans le temps. Plus on augmente les minima sociaux, plus on rend difficile le retour à l'emploi, a redit Emmanuel Macron, résumant un axe central de sa politique sociale. Il reprend une critique traditionnelle adressée aux minima sociaux, accusée d'être désincitatif. Ce n'est pourtant pas ce que montrent les études sur le sujet, y compris celles des services de l'État, comme l'INSEE.
Direction la Belgique à présent, qui procède également à un tour de vis sanitaire. Un couvre-feu s'applique déjà dans les provinces du Luxembourg et du Brabant-Wallon, et plus léger tout de même que ce qui nous attend, puisque les déplacements non essentiels sont interdits entre 1h et 6h du matin. Les autorités visent notamment la ville universitaire de Louvain-la-Neuve, où le virus se propage rapidement. Le reportage cette nuit de Jérémy Audouard.
Il est 1h du matin sur la grande place de Louvain-la-Neuve. Une poignée d'étudiants rentrent chez eux au pas de course. Ils veulent éviter à tout prix un procès verbal de la police.
On n'a pas l'argent non plus pour payer 250 euros comme ça, alors qu'on a un loyer à payer. C'est un peu difficile.
Les 15 000 étudiants doivent rester cantonnés chez eux et certains le vivent plutôt mal.
Ça a une répercussion sur l'ambiance générale parce que c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, on sort souvent le soir. Louvain-la-Neuve, c'est aussi la vie la nuit. Même au niveau psychologique, je pense que ça va être dur pour les étudiants.
C'est encore un coup qui nous démoralise, mais bon voilà, on fait avec. Mais c'est sûr que le couvre-feu, c'est difficile quoi.
On estime qu'au moins 2% des étudiants sont positifs ici et les rassemblements festifs constituent des foyers de propagation. Eva, jeune retraitée, accueille avec enthousiasme ce couvre-feu. Cela va éviter selon elle les débordements dans les colocations qu'on appelle ici des cotes.
C'est une très très bonne idée le couvre-feu parce qu'ils sont vraiment cons. Les étudiants se rassemblent dans des cotes où ils sont 50, sans masque, ils font les fous. Ce sont des jeunes qui ne sont pas conscients en fait.
Sarah, qui vient de terminer ses études, notait un certain relâchement ces dernières semaines.
Un peu plus de fêtes, plus de regroupements, beaucoup d'alcool dans les fêtes, donc on est moins conscient de ce qu'on fait, moins de gestes barrières. C'est compliqué parce que Louvain-la-Neuve, c'est aussi une ville où il y a des étudiants, mais il y a également des personnes âgées.
Hier, le premier soir, la police a dressé une vingtaine de procès-verbaux. Le couvre-feu est en vigueur au moins pour 15 jours.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Les 27 reprennent le chemin de Bruxelles pour un sommet dominé par le Brexit.
Et par le risque d'un no deal, pas d'accord avec le Royaume-Uni alors que sa sortie de l'UE doit être finalisée dans 2 mois et demi, alors que le plan de relance doit lui être bouclé d'ici la fin de l'année, que le futur budget de l'Union fait toujours l'objet de tiraillements, tout comme l'ambition climatique. Un sommet sous tension donc, Marie-Pierre Véraud.
Aucun gros dossier ne doit être bouclé lors de ce sommet, qu'il s'agisse du Brexit dans sa toute dernière ligne droite, du budget européen ou des questions climatiques également au menu. Rien n'obligeait donc les chefs d'État et de gouvernement en pleine reprise de la pandémie à se retrouver physiquement à Bruxelles. Sauf que c'est justement là, mais en coulisses, en aparté, en bilatéral, trilatéral, que les grandes lignes des futures grandes décisions pourraient bouger. Ainsi en va-t-il des négociations du Brexit. 3 dossiers bloquent, les questions de concurrence, la gouvernance de l'accord et, le plus explosif pour la France notamment, la pêche. Depuis le début, Paris plaide pour que ce ne soit pas une variable d'ajustement. Il n'y aura d'accord global, répète-t-on à l'envi, que si les pêcheurs européens sont bien traités. Mais tout en roulant des mécaniques, chacun sait bien qu'un bon compromis vaut mieux qu'un no deal. Michel Barnier pourrait ainsi obtenir un ajustement de son mandat pour permettre des avancées sur la pêche. Même si rien ne sera officiel, nul doute par ailleurs que de discrètes rencontres avec les dirigeants polonais ou hongrois viseront à les convaincre de leur intérêt à ne pas prendre en otage le plan de relance dont ils vont grandement bénéficier pour des questions de respect d'état de droit. Sans oublier les sujets qui s'inviteront, la Turquie que la Grèce veut voir sanctionner, autant de délicats dossiers qui se traitent bien moins bien en visioconférence. Sur tous ces dossiers, c'est bien aujourd'hui et demain à Bruxelles que les pas décisifs seront ou non franchis.
Le Brexit, c'est dans 2 mois et demi et personne ne sait encore dans quel cadre le Royaume-Uni nouera de nouvelles relations avec les 27. Côté britannique, on s'organise pour la date fatidique avec des doutes et parfois des craintes. C'est le reportage de la rédaction à suivre à 7h25 sur France Culture. Aux États-Unis, J-19 avant l'élection présidentielle, mais plus de 14 millions d'Américains ont déjà voté par correspondance ou directement dans un bureau de vote. Et pour ceux qui se déplacent, jusqu'à 11 heures d'attente avant de pouvoir accomplir son devoir civique. Exemple dans l'état de Géorgie, le reportage de Benjamin Fontaine qui s'est rendu à Marietta, au nord-ouest d'Atlanta.
Julia vient tout juste d'entrer dans la longue file d'attente qui serpente devant le bureau de vote central. Elle ouvre de grands yeux en voyant le nombre de personnes devant elle.
J'ai dit au monsieur à l'entrée, c'est ici que l'aventure commence ? Il m'a dit oui. Il m'a dit que j'en aurai pour 2 ou 3 heures. J'ai des livres, du travail à faire, des emails. Je suis impressionnée que les gens puissent rester ici aussi longtemps. C'est impressionnant.
Par chance, Julia est en télétravail, elle peut se libérer pour quelques heures. Mais Steven, livreur de colis, doit quitter la file après 3 heures d'attente.
Je dois aller travailler, je suis venu tôt ce matin, mais je reviendrai vendredi pour recommencer, je vais voter.
Ceux qui sortent tout juste du bureau immortalisent leur acte par un selfie. Steven, 18 ans, vient de voter pour la première fois.
C'était un sentiment incroyable d'avoir mon mot à dire. Tous les pays devraient posséder un régime démocratique.
Et si la file d'attente est si longue, c'est parce que beaucoup d'électeurs disent ne pas faire confiance au vote par correspondance. D'autres ont peur de ne pas pouvoir être là le 3 novembre. À 47 ans, Reba n'a jamais vu autant de monde aller voter en avance. Elle pense savoir pourquoi.
Je pense que la plupart des gens sont réveillés. Ils voient ce qui se passe avec le pays. On a besoin d'un meilleur leadership. Du coup, vous voyez pour qui j'ai voté.
Le bureau d'organisation des élections assure de son côté avoir tout prévu en ouvrant 9 bureaux de vote dès lundi, au lieu de 2 habituellement.
Et aux États-Unis, Joe Biden et Donald Trump devaient se retrouver aujourd'hui pour un second débat présidentiel à Miami. Il a été annulé finalement à cause de la contamination de Donald Trump au Covid-19. Son fils d'ailleurs est également malade. Les deux hommes, Biden et Trump, participeront chacun à un town hall des émissions face aux électeurs. Quelques mots du temps de ce jeudi 15 octobre, bien maussade. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 9 et 18 degrés du nord au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques instants, on va évoquer un monument parisien. Je sais, Catherine, que vous ne l'appréciez pas, et il y a beaucoup de Parisiens qui pensent comme vous, de Français, peut-être même d'étrangers du monde entier, qui pensent que le Sacré-Cœur ne mérite pas de devenir un monument historique. On en parle dans quelques instants avec Alexandre Gady, il est professeur d'histoire de l'architecture à la Sorbonne.